7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, retour sur les attentats du 13 novembre dernier. C'était il y a un mois, au Bataclan, sur les terrasses des cafés du 11e arrondissement parisien. Les jeunes ont été les principales victimes. Une génération a désormais des images qui tournent en boucle dans les têtes, mais aussi beaucoup de questions sans réponse. En particulier, celle-ci. Pourquoi des jeunes ont-ils visé d'autres jeunes ? Victime et coupable, notre reporter Alice Milo est partie à la rencontre de cette génération encore sous le choc. Bonjour Alice.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous proposez tout d'abord un récit parce que oui, un mois après, nous estimons qu'il faut continuer à donner la parole aux rescapés qui le souhaitent pour qu'ils ne soient pas seuls avec leurs souvenirs et surtout pour qu'ils nous permettent de mesurer cet immense traumatisme qui s'est répandu via les réseaux sociaux sur toute une génération.
Oui, et le témoignage que nous allons écouter a une résonance particulière sur notre antenne, puisqu'il s'agit de Guillaume Munier, technicien chargé de réalisation à RFI, fan de rock. Il se trouvait au Bataclan le 13 novembre dernier.
Ce soir-là, on est arrivé avec ma copine très en retard au concert, et donc on a décidé de monter, se mettre au balcon pour mieux voir. Et c'est là qu'on a entendu les premiers coups de feu venir d'en bas, dans la salle, les premières déflagrations de Kalachnikov. Je me trouvais à 10 mètres au-dessus, quelque chose comme ça. Et même là, le son était hyper intense. Donc je m'avance, je vois les gens qui commencent à tomber. Et surtout, je vois le chanteur et plus ou moins l'ensemble du groupe qui commence à partir. Tout le monde qui part, en fait, d'un espèce de mouvement de panique collectif. Je vois des gens tomber, qui commencent à saigner dans la fosse. Donc je retourne rejoindre mon amie qui s'était mise, comme beaucoup de gens, derrière les banquettes. Je la prends par la main et je la tire pour qu'on sorte du balcon. Et en descendant les marches, on voit les premières personnes qui commencent à descendre, qui se font déjà aligner en bas. Alors, est-ce qu'elles tombaient par la panique et le piétinement d'autres ? J'en sais rien. J'entendais que ça tirait de partout. Ça criait beaucoup à ce moment-là. J'ai pas vu la Kalachnikov ou je crois pas l'avoir vue. Je me suis dit, on peut pas prendre le risque de descendre. Et à partir de ce moment-là, la seule idée que j'avais, c'était de quitter le Bataclan par une issue que je connaissais pas. Ce qui fait que dès que j'ai vu une porte, j'ai foncé dedans donc avec mon ami. Il se trouve que c'était des toilettes. Et donc, on se cache là-dedans. On verrouille la porte, donc je la fais asseoir sur les toilettes. Je lui fais donc éteindre la lampe pour pas qu'il se dise qu'il y ait quelqu'un. Et donc je m'étais mis en espèce de L avec les jambes tendues pour bloquer la porte si jamais il cherchait à l'enfoncer. Et donc il y a bien eu 10 minutes où on entendait vraiment la calache qui continuait, enfin ou les calaches apparemment qui continuaient de tuer des gens. On les a entendus passer à l'étage plusieurs fois, donc devant notre porte de toilette. Il y a eu 10 minutes d'extrême violence où on entendait les gens crier, chercher à partir. Et après, c'était vraiment le silence absolu. Moi, j'entendais ma respiration, mon pouls. Mon amie était un peu paniquée. Elle me dit « Mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ?» Elle y croyait, je pense, comme moi, pas du tout. À aucun moment, je me suis dit « C'est un acte terroriste ». Pour moi, c'était une montée de violence qu'on avait comme aux États-Unis. Ça aurait pu être un forcené qui rentre avec une arme, buter tout le monde. Et donc, on est resté calfeutré là pendant 1h15. Déjà, je voulais être sûr que la police était prévenue. C'était mon angoisse parce que, à la différence de plein de gens qui ont pu se réfugier à 40, nous on était deux. Et dans les toilettes d'à côté, parce qu'il y avait deux toilettes, il y avait un papa et son enfant de 10 ans. Le papa était entre des mouvements de panique et des mouvements d'extrême calme, j'ai jamais entendu l'enfant. Au moment où on entendait les pas, il disait rien. Et 5 minutes après, il disait « Mais j'ai un fils de 10 ans, vous pouvez pas faire ça, bordel de merde !» Il s'énervait énormément. Et donc moi, à chaque fois, je lui disais « Chut, ta gueule !» pour pas qu'on se fasse repérer, parce que s'ils passaient à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient ouvert le feu, j'en sais rien. Mais voilà, c'est tout ce qu'on entendait, c'est ce mec-là, et moi et mon ami, avec qui on a fait un travail de respiration, et on s'est vachement calmé l'un l'autre, et j'entendais plus personne dans la salle me paraissait vide. Moi, dans ma tête, j'avais peur que tout le monde ait pu sortir, sauf nous, et que là, ils cherchent les dernières personnes. Alors, j'ai pensé à ma fille énormément, j'ai pensé à mon fils qui n'était pas encore né, qui est né une semaine après le Bataclan, mais je me suis dit que je pouvais pas mourir ici. J'ai pas parlé au passé ou au futur négatif une seule fois. Je chuchotais quelques mots pour qu'elle comprenne ce qu'il fallait qu'on fasse, et je lui disais aussi les textos que je recevais pour la tenir au courant de ce qui se passait dehors. Quand j'ai su que le raid était au courant, je lui ai dit « Apparemment, le raid arrive ». Et je lui ai même dit « Quand les flics vont arriver, on attend d'être sûr que ce soit eux pour ouvrir. » Bon, quand le raid est arrivé, on les entend arriver en fait. Hein. Ils sont 10, on entend le bruit des talkie-walkie. Je crois qu'ils nous ont fait une sommation d'ouvrir la porte, une deuxième en disant ils vont l'enfoncer. Donc voilà, et ça c'est arrivé 1h15 après le début. Ils avaient encore trouvé personne, donc on était des suspects, on était mis en joue au moment de sortir. Et donc on est repassé par les escaliers, par le bar, par la porte d'entrée, et on est sorti par le devant. Et chaque agent de police nous disait... pendant que le raid avançait, surtout ne regardez pas par terre, regardez la personne devant vous. Ce que j'ai pas fait, parce qu'en fait j'ai marché sur le bras de quelqu'un, et là j'ai vraiment vu tout le Bataclan était recouvert de corps et de sang par terre. Quand moi j'ai fait un pronostic, j'avais déjà 70 dans ma tête, 80 personnes. J'ai même revu le mec avec qui j'avais discuté au bar juste avant de monter, parce que je suis monté 3 minutes avant que ça éclate. J'ai vu leur corps. Alors je sais qu'après qu'il y avait aussi des personnes qui faisaient semblant d'être mortes pour se protéger, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient vraiment mortes. Mais c'était inconcevable pour moi de pas regarder ce qui se passait et ce qui s'était passé autour de moi. Il fallait absolument que je voie l'horreur qui était le bas du Bataclan et les escaliers. Ça conforte une fois de plus l'idée qu'on était peut-être finalement au bon endroit, on était dans ces toilettes. Et une fois qu'on était dehors, on s'est retrouvé dans une cour d'immeuble avec 200-300 personnes. Il y avait le choc, mais à ce moment-là, on était plus dans un... presque un bonheur d'en être en entier et d'avoir perdu personne, parce que en bas dans la cour ça pleurait beaucoup, et vraiment c'est de retour à la maison que je me suis senti en sécurité.
Depuis le 13 novembre dernier, la France vit sous l'état d'urgence déclaré par François Hollande. Interdiction donc de se rassembler pour manifester publiquement et collectivement sa tristesse, sa douleur, sa solidarité aussi auprès des familles des victimes et son indignation, comme ce fut le cas suite aux attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère en janvier dernier. Alors cette fois-ci, Alice Milo, comment ont réagi les jeunes ?
Eh bien, comme beaucoup d'autres, ils sont allés se recueillir sur les lieux du drame, allumer une bougie, déposer une rose. Je me suis d'ailleurs rendue à plusieurs reprises au Bataclan et devant la belle équipe. Et chez les jeunes, les mêmes mots reviennent toujours. Ils ont tué mes copains, ça aurait pu être moi.
Après, les larmes vient aussi bien sûr le temps de la résistance. Quelle forme a pris pour cette génération la résistance, Alice Milo ?
Eh bien, une résistance qui s'incarne par exemple autour de la figure de Sarah Roubateau. C'est une Française de 29 ans qui vit entre Paris et Montréal. Elle est l'auteur d'un billet « Lettre ouverte à ma génération, moi je n'irai pas qu'en terrasse » publié sur le blog de Mediapart une semaine après les attentats, et qui est un texte vu plus de 1 million de fois.
Vous avez joint Sarah Roubateau grâce aux moyens techniques de Radio-Canada.
On nous expliquait, suite aux attentats, notamment dans les discours politiques, que ce qui avait été attaqué, c'était notre liberté, notre mixité, la légèreté et la festivité d'une jeunesse. Et quelques jours après les attentats, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup d'appels, tous en terrasse, avec des photos de gens attablés aux terrasses avec un verre de vin qui mettait comme les gens dont on résiste. Et donc j'ai eu un certain agacement au départ par rapport à ça. Si j'ai des enfants et que je leur parle du 11 janvier, du 13 novembre, qu'ils me demandent alors qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que vous avez fait, et que la seule image de résistance que j'ai à lui montrer, c'est l'image de moi qui bois en terrasse, ce sera peut-être un petit peu triste, ce sera en tout cas l'image encore d'un consommateur, c'est une réponse de consommateur. Et je n'étais pas de dire que le symbole n'est pas nécessaire, mais qu'il me semblait qu'on était en train de substituer le symbole à l'action, et j'ai participé à la marche du 11 janvier et même les jours précédents, place de la République et tout ça. Donc j'ai vu les marches, les symboles, les bougies, les stylos, tout ça, ça fait du bien, mais je pense pas que ça guérisse. Et donc j'espère qu'on va dépasser le réflexe de dire même pas peur, tous en terrasse, on est tous ensemble, pour réfléchir aux conditions d'un changement dans nos sociétés, puisque le problème vient aussi de nos sociétés. Notamment le fait de chercher des énergies qui vont remplacer le pétrole. Il me semble que ça a une conséquence gigantesque, pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour la géostratégie, parce que tout ne va plus tourner autour des pays qui ont du pétrole. Et donc je ne dis pas que le pétrole entraîne le djihadisme directement, mais je comprends bien que ça a aussi des conséquences politiques.
Je suis William Martinet, le président de l'UNEF, le syndicat étudiant. Quelques jours après les attentats, nous avons été 12 associations, syndicats et organisations de jeunesse. On s'est rassemblés à des terrasses de café, parce que c'est notre habitude, pour discuter, débattre, échanger et travailler à la rédaction d'un manifeste dont le titre est « Nous sommes la génération de la crise », c'est un fait, mais par contre, nous ne voulons pas être la génération de la guerre. Et je crois que la première motivation de ce manifeste, c'est que les jeunes prennent la parole. Si justement on veut éviter un affrontement des civilisations, comme certains nous le proposent, eh ben on a besoin, entre jeunes, entre étudiants, d'échanger encore plus qu'avant. Et donc l'Erasmus européen, comme il existe aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Il a créé des solidarités entre jeunes de toute l'Europe. Nous, on pense que c'est le moment de passer un cap supplémentaire, un Erasmus méditerranéen. Donc ça veut dire dans les deux sens, ça veut dire des étudiants algériens, tunisiens, libanais qui viennent en France, des Français qui vont dans ces pays-là, et surtout se rendre compte à quel point les jeunes partout sur la planète partagent les mêmes aspirations. Il faut regarder une chose, et on l'a fait et ça nous a frappé, le soir des premiers bombardements français à Raqqa, il fallait aller sur Twitter et voir les habitants de Raqqa discuter entre eux. Finalement, ils ont eu les mêmes échanges, les mêmes discussions que nous à Paris le 13 novembre, le soir des attentats. Où es-tu? Est-ce que ça va? J'ai peur. Et donc il faut jamais oublier ça, que sur ce territoire, il n'y a pas seulement des dangereux islamistes, il n'y a pas seulement des barbares, mais il y a des populations. Cette génération qui comprend un petit peu mieux le monde que les générations précédentes, il faut s'appuyer sur elle pour trouver les solutions aux problèmes que rencontre la planète.
En janvier dernier, les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher ont divisé la jeunesse française. On se souvient en particulier de la houleuse minute de silence dans une centaine d'établissements scolaires. Mais en novembre dernier, Alice Milot, les attentats ont été condamnés de manière unanime par cette génération directement visée.
Ah oui, hein, qu'on soit un jeune de Paris, de banlieue ou de province, sans distinction de milieu social, de couleur de peau ou de religion, tous ont manifesté leur colère et leur indignation dès le lendemain des attentats. Les étudiants musulmans de France ont d'ailleurs mis en ligne une vidéo intitulée « Nous sommes unis », vue 500 000 fois, extrait.
Ils pensent mener une guerre contre des croisés et invoquent le Coran tout en s'appuyant sur ses versets. Mais verser le sang d'un innocent ne répond à aucune loi. Si eux ne l'ont pas compris, moi je ne les comprends pas. Et la voie choisie par mon cœur se rattache à ma foi. Ma foi dont les fondements se trouvent ébranlés par 120 morts et des millions de cœurs blessés. Par les actes de terroristes persuadés du bien fondé de leur choix. Mais le bien fondé sur la foi condamnera toujours ces attentats.
Bonjour, je m'appelle Imen, je suis étudiante à Toulouse. Je fais partie de l'association Les étudiants musulmans de France. Et du coup, le lendemain de l'attentat, nous avons décidé de faire une vidéo. Des personnes qui tiennent une pancarte avec écrit « Nous sommes unis » face à la tragédie qui s'est déroulée. Ce n'est pas un message à prendre en tant qu'excuse, vu qu'on n'est pas du tout... la cause de ce qui s'est passé. Donc là, en fait, nous, on était là pour montrer aux familles, montrer à la France, montrer à tout le monde qu'on était vraiment touchés par ce qui s'était passé.
Moi, justement, j'ai entendu des gens dire on attend de la communauté musulmane qu'ils se prononcent, qu'ils se désolidarisent.
Qu'ils condamnent plus fort que les autres.
Voilà, qu'ils condamnent encore plus et vraiment qu'ils disent ce n'est pas en notre nom, quoi.
Je vois pourquoi les musulmans devraient se justifier plus que d'autres personnes. Déjà, quand ce qui s'est passé le 13 novembre dernier, la première chose auquel les gens ont pensé, musulmans ou pas, c'est est-ce que ma famille était là-bas. Comme tout le monde, on a eu peur pour nous. Musulmans, c'est comme des gens normaux. Ils se sont posé les mêmes questions que tout le monde. Il y avait de la peur, de l'angoisse, de la colère, se sentir sali, parce que bon, évidemment, la première chose qu'on s'est dit, c'est on espère que c'était pas un musulman. Ça, c'est le truc classique à chaque fois on se dit ça. Bon, certains ont manifesté de l'inquiétude pour nous, peut-être plus que nous d'ailleurs, en se disant voilà, ça va encore vous retomber dessus. Ce qui n'a pas manqué à certains égards. Ce serait absurde de dire aux musulmans, vous devez vous justifier, quoi. Le piège du terrorisme, c'est de diviser la France. C'est dire, voilà, les musulmans sont vos ennemis, qu'ils soient français ou pas. Et nous, face à ça, on oppose un message d'union. Une écrasante majorité des réactions étaient très positives. Les gens, vraiment, ont été touchés par le message qu'on a envoyé. On a eu quelques messages un peu islamophobes, etc. Mais c'était vraiment à la marge. On sait que certains vont instrumentaliser ça pour le retourner sur les musulmans. Il y a des personnes dans MF, notamment des filles, hein, qui se disent, voilà, peut-être que je peux être pris pour cible dans les transports en commun ou dans la rue, en particulier celles qui portent le voile, effectivement. Ça, ce sont des craintes tout à fait avérées. Et donc, quand quelque chose comme ça se passe, on a l'impression quand même de revenir en arrière. Tout le travail qu'on fait au quotidien pour démystifier la présence musulmane en France, eh bien, on revient chaque fois 5 ans en arrière, quoi. C'est exaspérant pour des acteurs de terrain comme nous de se dire, voilà, il y a des idiots qui détruisent tout ce qu'on a fait.
Salam alaikum, les gens. Je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de voir tous ces attentats. Ça, je vais vous dire une chose, c'est pas les autorités qui vont faire le ménage, c'est pas tout ça, c'est nous, nous musulmans qui prônons les valeurs de la République, c'est à nous de faire le ménage, la solution elle viendra de nous, musulmans de France. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, de vos familles, on se dit à plus tard.
On vient d'entendre un extrait d'une vidéo qui a fait le buzz quelques jours après les attentats. C'est celle d'un jeune blogueur connu sous le pseudo Chronique de Basse, Alice Milo.
Oui, c'est un Français musulman d'une trentaine d'années. Son coup de gueule contre les auteurs des attentats a été filmé dans sa voiture, avec son téléphone. Il a fait le tour du web en quelques jours. Et c'est vraiment toute la fulgurance et la fugacité du web, d'ailleurs.
Mais si on fouille un peu plus son profil, on découvre un personnage assez misogyne et controversé.
Oui, il a notamment tenu des propos très violents à l'égard de jeunes femmes arabes qui tournent dans des clips de rap. Et donc c'est pourquoi nous diffusons aujourd'hui seulement qu'un court extrait, car si le personnage est controversé, son discours a tout de même eu le mérite de faire réagir les jeunes. Alors qu'en pensent les étudiants musulmans de France? Est-ce à eux de faire le ménage dans leur communauté, pour reprendre les mots de Chronique de Basse, et de traquer les terroristes? Voici leur réponse.
C'est pas des personnes que je côtoie, donc je suis incapable de les dénoncer. Ces personnes-là ne veulent pas nous côtoyer, nous.
C'est des gens qu'on voit pas vraiment. Enfin, moi je les cherche, je les trouve pas. Dans ce processus-là, il y a aussi le phénomène de rupture avec aussi les autres musulmans. Parce qu'ils se considèrent comme, entre guillemets, des bien guidés parmi les musulmans. Et tous les autres, nous d'ailleurs en premier rang, on est des égarés pour eux. Faut bien avoir conscience de ça. Bah, on n'a pas la même compréhension de l'islam qu'eux, ça c'est évident. D'autant que nous, on est une association qui prend de la citoyenneté. Ils se sentent ostensiblement l'élite de la communauté musulmane, alors que enfin, c'est tout le contraire pour nous. C'est pour ça qu'on les trouve pas dans les mosquées, d'ailleurs. C'est pas rare que ces gens-là disent que les imams sont égarés. Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut entendre. Clairement, ils s'attaquent en premier lieu aux musulmans. Et c'est pas pour rien que dans les pays à majorité musulmane, les premières victimes sont les musulmans. C'est parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des musulmans authentiques selon leur compréhension de l'islam.
Je suis Combo, je suis street artiste parisien. J'ai 28 ans et ça fait plus de maintenant 12 ans que je fais de la peinture.
Ici, c'est votre atelier.
Et donc là, juste devant nous, c'est l'affiche qu'on a commencé à coller le lendemain des attentats de novembre, qui l'affiche le mot d'ordre, c'était Paris encore debout. Alors moi, ça fait plus d'un an, même avant les attentats de Charlie, que je travaillais sur la question justement de radicalisation, de préjugés sur l'islam, etc. Bien que je ne sois pas musulman, j'avais besoin, moi, de m'exprimer avec ma tête d'arabe. J'ai un père qui est libanais, qui est chrétien, j'ai une mère qui est marocaine, qui est musulmane. J'ai grandi avec la profonde idée d'être français. Au fur et à mesure, j'ai compris que, à travers le regard des autres, que j'étais arabe. Et depuis peu, je viens de comprendre que j'étais musulman. Donc j'ai besoin de le dire, que je suis pas forcément musulman, que je suis pas forcément arabe. Essayer de faire tomber les préjugés. Déjà, avant le 11 janvier, je m'étais grimé avec une barbe et une gel à bain, où je me mettais en scène. Et je collais ça dans les rues de Paris et aussi dans d'autres villes. Et je mettais des phrases qui avaient vocation, après le 11 janvier, à dire que les musulmans étaient les mêmes. Ça veut dire que je me retrouvais avec une phrase qui disait « Dans l'armée française, il y a 50 000 musulmans qui protègent la patrie. » Les musulmans finissent leur prière par dire « Amen » comme les chrétiens et les juifs. Voilà, j'essaie de ramener du lien là où à un moment donné, il y a eu une cassure en janvier dernier, après les derniers attentats là, de novembre. J'ai rasé ma barbe, tout simplement pour dire, justement, finalement, on est tous ciblés. Mais avec l'état d'urgence, tout le monde peut devenir un terroriste. Tout le monde peut se retrouver face à la justice, pour rien. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a plus de droit.
Voilà, vous venez d'entendre ce jeune artiste Combo. L'état d'urgence en cours en France est prolongé jusqu'en février prochain. Évidemment, il fait grincer des dents, notamment parmi les jeunes, Alice Milo.
Oui, à ce jour, on recense 2700 perquisitions administratives et 360 assignations à résidence. Et l'inquiétude gronde en particulier parmi les jeunes militants qui se sont retrouvés visés par l'état d'urgence après avoir manifesté à l'occasion de la COP21 à Paris. C'était 10 jours après les attentats. Mais aussi parmi les jeunes de banlieue issus de l'immigration qui se sentent eux stigmatisés par cet état d'urgence et dont les récits d'abus s'accumulent jour après jour sur le web. C'est d'ailleurs le cas de Combo qu'on vient d'entendre, dont le frère a subi une perquisition sous le simple prétexte qu'il porte une barbe et qu'il a reçu la visite d'amis venus de Belgique.
Suite de votre reportage, Alice Milo, ça sera juste après le flash, à la rencontre de cette jeunesse qui bouge, qui s'interroge, qui réfléchit, loin désormais de l'insouciance qui aurait pu la caractériser. Restez avec nous, les voisins, et bien sûr, vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, bien sûr. 7 milliards de voisins, n'oubliez pas, restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'émission sur RFI consacrée à la jeunesse après les attentats du 13 novembre en France avec votre reportage Alice Milo. Une génération internet, d'un monde globalisé, mais aussi des jeunes qui ont tiré sur d'autres jeunes. Omar Ismaël Mostefaï, 29 ans, Brahim Abdeslam, 31 ans, Sami Amimour, 28 ans, Bilal Hatfi, 20 ans, pour ne citer qu'eux. Les terroristes des attentats de Paris ont le même âge que leurs victimes qui se trouvaient au Bataclan, au Petit Cambodge, au Carillon ou à la Belle Équipe. Victimes et coupables ont même parfois fréquenté les mêmes lieux, les mêmes établissements scolaires, les mêmes quartiers, les mêmes amis. Des chemins se sont croisés. Et c'est toute l'incompréhension de Franck, 31 ans. Il habite à Drancy, la ville du tristement célèbre Sami Amimour.
Alors ici, on se trouve devant le lycée Eugène Delacroix, à Drancy. Donc c'est le lycée qui a accueilli Sami Amimour, un des terroristes du Bataclan. Et donc moi, je suis Franck, en fait, et j'ai fréquenté ce lycée à peu près dans les mêmes années que lui. J'ai passé mon adolescence une dizaine d'années juste dans le quartier où ils habitaient, en face de chez eux, quoi, vraiment en face. On s'est connus aussi au lycée, et puis bon, sa mère et ma mère se fréquentaient énormément, donc on les connaissait comme ça, quoi.
Qu'est-ce que vous avez là ?
C'est la photo de classe de terminale de Sami Amimour. C'était en 2005. Il y a l'air d'avoir une super ambiance en fait dans cette classe quand même, ils ont l'air de bien tous s'entendre. Sami se trouve dans le coin en haut à gauche, voilà. T'étais plutôt quelqu'un d'isolé en fait, de timide en fait, mais qui pour autant était très gentil et il n'y avait pas de méfiance à son égard. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'effectivement dans ce lycée là, il y a des gens qui étaient dans ce lycée et qui ont été touchés par les événements en tant que victimes. Et quand la nouvelle est tombée sur le fait qu'un des terroristes du Bataclan était Sami Amimour, je me suis effondré parce que j'ai pensé à sa mère un peu comme si c'était la mienne. Si sa mère aurait pu être la mienne, j'aurais pu être ce mec-là aussi. Et là, donc, il y a tout un tas de questions qui arrivent. Quel est le chemin qu'on peut faire justement pour en arriver là, en fait ? On a grandi dans les mêmes endroits, on a fréquenté le même lycée. Voilà, est-ce qu'on aurait pu être aussi touché par ce fléau, quoi ? Sur quelle base je peux affirmer aujourd'hui que je suis plus solide que quelqu'un d'autre pour ne pas sombrer là-dedans ?
Ça va, Seb ?
Ça va et toi ?
Ouais.
Alors ça c'est Seb en fait, on est potes depuis longtemps parce qu'il était aussi au lycée de la Croix à peu près dans les mêmes années.
Et dans quelles circonstances et contextes vous avez connu Sami Amimour ?
Je faisais du sport avec lui dans une salle de sport sur Drancy. Ce qui est drôle dans le truc, c'est que notre salle de muscu, elle fait partie de la gendarmerie de Drancy. Le cliché dans lequel on le mettait, c'est ouais, le frère musulman, quoi. Voilà, très discret. Même mes potes qui étaient avec lui en terminale, ils le diraient, voilà, ils rigolaient à leurs blagues, mais sans trop prendre part à la chose. Il était déjà assez solitaire. Ça se voyait sur sa tête que c'était un mec qui avait pas confiance en lui, en fait.
Alors là, on a quitté le lycée.
Alors là, on se trouve derrière la mairie de Drancy, donc on rentre dans le quartier où la famille Amimour vit. C'est que du logement social, à droite comme à gauche, en fait.
Vous avez grandi là aussi ?
Alors moi, j'ai grandi là, voilà, on va le voir, justement. Ici, on n'est pas du tout dans une cité où tout le monde deal du shit, où les gars se baladent avec des armes. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. On est plutôt dans un endroit très calme. Les gens vivent dans de très beaux appartements, dans un espace qui est plutôt familial, convivial. On est loin du cliché qu'on pourrait se faire de la grosse cité de Seine-Saint-Denis, quoi. Donc là, on arrive devant le bâtiment de la famille Amimour. C'est une famille plutôt modeste, en fait, qui vit bien. Voilà, son père est commercial, un très bon niveau d'éducation. Lui, Sami, c'était un très bon élève qui a eu le bac du premier coup. Voilà, donc sa mère, c'est quelqu'un quand même qui a une existence dans cette ville, très active dans le milieu associatif de la ville, quelqu'un qui est profondément laïque, qui, je dirais même, est féministe, qui ne pratiquait pas spécialement la religion, ou en tout cas n'en parlait jamais, ou ça ne se voyait pas, elle ne portait pas le voile par exemple, donc elle a juste des origines algériennes. Ce sont des gens normaux, donc il a sans doute fait un chemin qui lui appartient. mais c'est quelqu'un qui s'est rallié à une cause et c'est pas le seul à l'avoir fait. Et de fil en aiguille, on s'est dit, ça peut pas être le lycée qui a pas joué son rôle, ça peut pas être.
Pourquoi ça peut pas être le lycée?
Parce que le lycée, il a joué son rôle pour beaucoup d'entre nous, quoi. Enfin, moi, dans mes amis, quasiment tout le monde a réussi, quoi. Mais on a grandi aussi au même endroit, donc dans les cités du centre-ville. On a aussi éliminé l'intégration sociale au niveau du travail, puisqu'il avait aussi un contrat à la RATP. Il est resté en CDI pendant près de 15 mois.
Il était chauffeur de bus.
Il était chauffeur de bus, exactement. Donc ça pouvait pas être ça non plus.
Pour moi, il y a un moment donné où le mec est seul. Il n'y a pas quelqu'un de son âge avec qui il a grandi qui lui dit « Non mais arrête, tu fais quoi là? Tu vas dans quoi? Tu pars en couille, tu vas pas aller en Syrie faire le djihad et tout, tu sais ce que c'est ça? Tu vas aller tuer des gens ?» Et je sais que des potes en fait qui ont vu qu'ils partaient un peu en sucette par rapport à la religion et tout ça, n'ont plus voulu de contact avec lui. Donc le mec s'est retrouvé, s'est fait sa propre formation et s'est auto-abreuvé certainement pendant un moment de conneries qu'on trouve sur YouTube et tout ça.
Il y a une image moi qui me plaît beaucoup, souvent en plus avec le football et le rap, où justement pour réussir faut être rappeur ou faut être footballeur en fait. Et un jour, ce mec-là en fait, au lieu de rencontrer un sélectionneur d'équipe de football ou alors un producteur de rap, il rencontre un mec qui va faire de lui juste un terroriste, quoi.
Faudra pas prendre ça comme quelque chose de dénigrant ou quoi. Mais je pense que le rêve de sa vie, c'était pas d'être chauffeur de bus. On veut tous être utile, faire des belles choses et tout ça. Et puis la réalité du terrain, les grandes claques qu'on se prend. Mais en plus, le mec était pas con, ça. Tout le monde est unanime pour le dire. Le mec était loin d'être con.
Voilà les témoignages de Franck et Sébastien à Drancy. Un mois après le drame, Alice Milo, ces questions sont toujours en suspens, évidemment.
Et oui, la responsabilité est-elle individuelle, collective? Le terreau est-il social, territorial, identitaire, psychologique, religieux, géopolitique? Les experts de tous bords débattent depuis un mois pour essayer de comprendre quelles sont les causes qui poussent de jeunes gens au fanatisme.
Pour comprendre, Alice Milo, vous êtes allée chercher des réponses à travers le parcours d'un ancien islamiste des années 80.
Et oui, il s'agit de Farid Abdelkrim, 48 ans. Aujourd'hui, il est humoriste, mais à l'époque de sa période islamiste, il est président des Jeunes Musulmans de France et membre de l'Union des Organisations Islamiques de France, l'UOIF. Il est l'auteur d'un livre, « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste », paru aux éditions Les Points sur les I. Il raconte son histoire, fils d'immigrés algériens. Son père est venu en France dans les années 50. Farid naît et grandit donc en France, dans une famille de 5 garçons. Il suit une bonne scolarité jusqu'en 6e, où tout bascule.
C'est au collège que les choses ont commencé à poser problème pour deux raisons. La première, la mort de mon père, et la rencontre avec des jeunes issus de l'immigration concentrés dans un même collège et parfois dans les mêmes classes. J'ai commencé à fricoter un peu avec la délinquance, je consomme de la drogue. Bref, au niveau scolaire, c'est une catastrophe. En 1985, on a un ami, Redouane, qui se fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire. Et moi, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Et je vais me tourner vers l'islam parce que j'ai besoin de réponses et j'ai besoin de retrouver quelque chose qui m'a toujours été très cher, c'est la sérénité. J'arrive dans une mosquée, la seule mosquée à l'époque qui officie à Nantes. C'est une mosquée qui s'avère être gérée par les frères musulmans, ce que je ne savais pas à l'époque. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement et puis je suis repéré, de fil en aiguille. Je vais être encadré par deux personnes très sympas qui ont pris le temps de s'occuper de nous, de nous enseigner les premiers rudiments d'une pratique religieuse très hasardeuse au niveau du contenu lui-même. L'idée de vouloir monter, ou en tout cas de construire un monde binaire, nous contre eux, eux contre nous. C'est l'Occident, un monde matérialiste, communiste, athée, capitaliste, qui s'en est pris à l'islam, qui est à l'origine de la chute du califat, qui est à l'origine de la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc on intègre ça, et en plus, quand on arrive en France, il y a des discriminations, il y a le Front National qui fait parler de lui, il y a tout un tas de choses qui font que on va se dire qu'on n'est pas tout à fait chez nous. Et donc je m'approprie comme ça une certaine identité que je suis en train de me bricoler. Dans mon esprit, la France n'est pas mon pays en réalité. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va prendre notre revanche. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de prendre de la drogue, j'ai arrêté de sortir avec les filles, j'ai arrêté de voler, j'ai commencé à bosser à l'école, et puis j'ai repris un cursus, je suis allé à la fac, etc. Donc de ce point de vue-là, on peut parler d'un changement radical d'existence. Puis la confrérie des frères musulmans est initiée par un homme qui s'appelle Hassan al-Banna, égyptien, dans un pays qui est colonisé par l'Angleterre, qui va se faire assassiner également, qui va, moi, personnellement, énormément me fasciner, à l'instar d'un Antonio Montana quelques années avant dans le fameux film Scarface interprété par Al Pacino. Et donc cette fascination, elle est liée au fait que j'ai été pendant très très longtemps extrêmement complexé de ce que je croyais être. Je me trouvais pas beau, pas très courageux, j'étais vachement timide, donc même avec les filles c'était compliqué. Donc il y avait tout ça qui faisait que si on regarde un film comme Scarface, on voit le gars débarquer de son Cuba natal et puis il a ce slogan « Le monde est à toi ». Pourquoi je ne serais pas un de ceux-là ? Donc il y a ce côté un petit peu identification, la nécessité d'avoir un modèle, mais c'est à un moment donné quelque chose qui habite tout adolescent. Donc je dis toujours qu'il y avait une quête de sens et je vais combler avec un activisme qui va devenir boulimique et c'est comme ça que je vais commencer à essayer de prêcher entre guillemets la bonne parole. C'est ainsi que je suis devenu l'un des membres fondateurs des Jeunes Musulmans de France et peu de temps après j'en suis devenu le président pendant quelques années et je crois que c'est en côtoyant l'autre qu'on évite ce type de dérive. Moi, à l'époque, je n'avais plus d'amis qui n'étaient pas musulmans. C'est extrêmement grave, en réalité, dans le cheminement de quelqu'un, dans sa vie de tous les jours, parce que l'islam ne doit pas être l'islamisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut cesser avec cela et rendre l'islam à sa dimension religieuse, spirituelle, et cesser de tout mélanger, l'identité, l'Algérie, la colonisation, la mort de Redouane, celle de mon père, Antonio Montana, Hassan al-Banna, tout ça, il faut mettre de l'ordre dans ce désordre en séparant les ordres. Souvent, on me demande, si c'était aujourd'hui, est-ce que j'irais en Syrie ? Ma réponse est, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses se passeraient si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'en sais absolument rien. Peut-être qu'effectivement, si j'étais tombé sur les personnes qui auraient été capables de me motiver pour, j'y serais sans doute allé, je sais pas.
Il faut bien préciser, Alice Milo, que l'histoire de Farid Abdelkrim s'inscrit évidemment dans les années 80, qu'il n'a jamais basculé dans le djihad.
Oui, néanmoins, son témoignage montre bien les ficelles en fait d'une dérive vers le fanatisme. Un drame familial, hein, la mort du père, un sentiment d'injustice sociale, le manque de mixité, une mosquée radicale, une posture adolescente empreinte de rêves et d'aventures, des ingrédients que l'on retrouve en partie dans les parcours des jeunes terroristes du 13 novembre et des candidats au djihad.
Candidats toujours plus nombreux, selon le ministère de l'Intérieur, pour redonner les chiffres, près de 1000 personnes se seraient rendues en Syrie ou en Irak, 247 en seraient reparties. Ceux qui rentrent en France sont incarcérés. Mais Alice Milo, qu'est-il prévu pour éviter les départs en Syrie en termes de prévention ?
Alors parlons de ce qui existe déjà. Depuis 2014, le gouvernement travaille principalement avec le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, le CPDSI. C'est une structure fondée en 2014 par l'anthropologue Dounia Bouzid, qui a reçu à ce jour plus de 700 jeunes radicalisés. Alors la plupart sont signalés par leurs parents qui s'inquiètent face à des signes hein, tels que l'obsession très soudaine pour le Coran, une fascination pour certaines théories du complot, la rupture avec son groupe d'amis ou l'école. Et face à ces jeunes, Dounia Bouzard explique ses méthodes.
Le CPDSI se présente comme un sas entre Daesh et le monde réel. L'objectif du CPDSI, c'est que le jeune comprenne que ce que Daesh a fait miroiter comme une mission divine, en fait, c'est pas une mission divine. Et personne ne dira jamais « je veux être déradicalisé ». Donc on a construit plusieurs méthodes avec les parents. On va beaucoup passer par la famille pour remobiliser le petit enfant dont on fait le pari qu'il est encore là. C'est ce qu'on appelle dans notre argot la Madeleine de Proust. On va travailler avec les parents pour qu'ils fassent revivre des souvenirs de façon à ce que le jeune se rappelle de sensations qu'il éprouvait du temps où il considérait ses parents comme encore ses parents. Si le papa allait tous les dimanches matin faire de la barque avec lui, on va demander au papa de le ramener avec lui. Comme Daesh a anesthésié les souvenirs et les repères du jeune, inconsciemment, on le touche de façon à ce que donc il se remémore une partie de sa filiation et qu'il se replace dedans.
Encore faut-il qu'il y ait des parents ?
Bien sûr, les jeunes ne sont pas égaux face au désembrigadement. Le père incestueux, le père incarcéré, les parents décédés, tout ça sont des handicaps pour nous. On va chercher une personne fiable, un proche, un instit, un voisin, un tonton, une grand-mère, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des jeunes qu'on sauve uniquement comme ça. On le voit revenir à lui, se remettre à penser, se remettre directement en psychothérapie, voyez. Alors c'est un suivi long. Pour d'autres jeunes, ça ne suffit pas. Et là, on va utiliser des repentis, un peu sous le système des alcooliques anonymes. C'est-à-dire qu'on va chercher des repentis qui ont été embrigadés selon le même mythe que notre jeune. Celui qui vient se faire désembrigader, qui ne le sait pas, hein, il croit qu'il vient pour ses parents, on coécrit un scénario avec chaque parent pour arriver à ramener le gamin embrigadé contre son gré finalement. Hein. On le piège, hein, soyons clairs, on lui dit pas « tu vas au CPDSI voir Dounia Bouzard, surtout pas ». Il entend au début, il est souvent absent, il me reconnaît, il comprend qu'il s'est fait piéger, donc il reste 5 minutes en se disant « je vais partir ». Mais il entend tout de suite les repentis qui parlent des mêmes gens que lui, puisque finalement c'est un petit monde, ils se connaissent tous entre eux, donc à bout, machin. Il entend le repenti faire l'analyse du décalage entre le discours de Daesh et la réalité de Daesh, et ça marche aussi très fort. Il faut compter 2 heures hein, de témoignages des repentis, mais l'embrigadé craque parce qu'il reconnaît toujours son mécanisme, puisqu'on a choisi des gens qui sont en miroir de lui. Et donc, en général, c'est assez fulgurant. Il va parler de son mécanisme, il va parler de ses réseaux, il va donner des noms. Ça va très loin. On inverse vraiment dans ce pari la phrase de Daesh qui dit « on gagnera parce que on aime la mort plus que vous n'aimez la vie ». Tous ceux qu'on a pu sauver se sont engagés avec nous. Et que maintenant, on a un vivier très actif de 50 repentis. C'est cette chaîne humaine qui gagnera et qui fera qu'on s'en sorte tous ensemble.
Mais est-ce qu'il y en a qui sont irrécupérables ?
Les échecs qu'on a eus, c'est avec des jeunes qui avaient atteint la déshumanisation. Dans la vie après Daesh, c'est mon dernier livre où j'ai enregistré les séances de déradicalisation. Je raconte l'histoire d'Aïda, qu'on essaye de réhumaniser par l'intermédiaire de son mari. C'est un couple qui a connu l'amour, qui s'est radicalisé après, ensemble. Quand je lui dis qu'il est inscrit sur la liste des martyrs et que je voudrais l'aider, je suis face à une jeune fille qui prend sa petite tasse à café en faïence et qui me dit « Hamdoulilah, c'est moi qui lui ai dit à 3 reprises de s'inscrire. J'étais prête à demander la répudiation s'il ne partait pas en martyr. » Et là, je me rends compte qu'elle ne l'aime plus en tant qu'être humain, qu'elle ne l'aime que parce qu'il va se sacrifier pour la cause. Et là, je suis face à un bloc où je ne sais plus où m'appuyer pour ressusciter la petite fille qui pourtant doit encore être en elle parce qu'elle a à peine 18 ans. Mais là, je suis en échec, oui.
Des repentis pour ramener à la raison des jeunes candidats au djihad. Justement, Alice Milo, c'est une technique que l'on retrouve dans d'autres structures. Vous avez rencontré l'un d'entre eux.
Oui, il s'agit de Mourad Benchelali, 33 ans. Il a grandi dans le quartier des Minguettes, dans la banlieue de Lyon. À l'âge de 19 ans, alors qu'il vivote d'un boulot précaire, son frère lui propose d'aller faire un petit voyage pour découvrir l'Afghanistan et la réalité d'un État islamique. On est en juin 2001, 2 mois avant les attentats du 11 septembre à New York. Mourad est alors peu porté sur la religion et il accepte de partir pour vivre une grande aventure, comme il dit, lui qui n'a jamais connu autre chose que son quartier. Mais la réalité est tout autre. Il se retrouve pendant 60 jours piégé dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, obligé d'apprendre le maniement des armes et de subir les cours de propagande.
Donc au moment du 11 septembre, évidemment, il est au mauvais endroit.
Et oui, il se retrouve arrêté par les forces américaines et déporté à Guantanamo. Il y passera 2 ans et demi, puis condamné en France pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, il est transféré à Fleury-Mérogis pour 2 années supplémentaires.
Et aujourd'hui, Mourad Benchelali fait de la prévention dans les écoles, dans les centres sportifs, dans les associations.
Et oui, il raconte son histoire aux jeunes pour décourager les candidats au djihad d'aujourd'hui.
Ils idéalisent énormément le djihad. Ils ont une vision très manichéenne d'un conflit. C'est les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, voilà.
Quelque part, ce sont des justiciers quand ils partent.
C'est très bien résumé. Ça part d'un sentiment d'injustice. On est persécuté, on veut nous combattre pour notre religion, et ben nous on se met en défenseur de tout ça. Et moi ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est pas comme ça justement la réalité. Je leur raconte les tortures, je leur raconte Guantanamo, donc je leur raconte qu'ils sont susceptibles aussi de se retrouver séquestrés pour des raisons ou d'une autre, se retrouver incarcérés. Je leur raconte la réalité d'un bombardement, parce que j'ai vécu aussi les bombardements en Afghanistan. Ce que c'est que la réalité d'un bombardement, il n'y a rien d'héroïque à recevoir des bombes sur la tête et à avoir des corps déchiquetés. Je leur raconte la réalité d'un camp d'entraînement aussi, la façon dont on est manipulé. Ils pensent qu'ils vont être libres d'aller et venir là où ils veulent dans le pays, qu'ils vont pouvoir choisir le groupe qu'ils veulent, qu'ils vont pouvoir y aller et puis repartir s'ils sont pas contents de ce qu'ils sont susceptibles de découvrir. Et justement, quand je leur raconte mon histoire, ils comprennent que c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en Afghanistan, tout de suite, j'ai été embarqué dans un camp d'entraînement et puis j'ai pas eu le choix. Et puis surtout, j'ai dû lutter pour ma survie. C'est déjà la première chose qu'ils comprennent. Et puis quand je leur raconte aussi les conséquences que ça a eu sur ma vie, sur ma famille aussi, parce que j'ai ma famille qui a été incarcérée, quand je leur raconte ça, ça les choque les jeunes, en se disant, purée, moi, quand il est rentré en France, il s'est retrouvé avec sa famille en prison, avec sa mère et tout. Et évidemment, ça leur fait prendre conscience aussi qu'ils sont susceptibles aussi de mettre leur famille dans la détresse. À quoi ça a servi finalement tout ça? Qui ça a aidé? Est-ce que ça a aidé les musulmans? Non. Est-ce que ça a aidé l'islam dans sa globalité? Non. Ça a simplement ajouté de la souffrance.
Ouais. Mais du coup, c'est quoi l'alternative?
C'est le grand problème. C'est souvent le grand problème. Ils me disent, ok Mourad, on va pas faire le djihad, mais toi, qu'est-ce que tu nous proposes en échange? Alors c'est vrai que j'ai pas toujours la réponse. Mais j'essaie de leur expliquer qu'en France, on a la chance, la liberté d'expression, les médias, etc. Donc on a la chance d'avoir des outils pour pouvoir finalement être très actif. Et je leur raconte cette anecdote où je leur dis, voilà, moi quand j'étais à Guantanamo, il y a un yéménite, un détenu yéménite qui m'a dit, Mourad, toi, dans ton pays, il y a les droits de l'homme, etc. Il y a les médias et tout. Donc raconte, quand tu vas rentrer en France, raconte que nous, on est là. Parce que dans notre pays, au Yémen, tout le monde s'en fout. Je lui ai promis que je ne l'oublierai pas. Et quand je leur raconte cette anecdote, ils comprennent que finalement, en France, on a les moyens finalement d'être utile. Il n'y a pas que la lutte armée pour régler les conflits ou pour aider les autres. Et ils sont assez intelligents pour le comprendre.
C'est suffisant pour les faire changer d'avis?
Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, ça arrivait assez récemment, un jeune qui m'a dit, Mourad, j'ai été approché sur Facebook, ils m'ont proposé de venir, j'ai refusé. Je lui ai dit, mais comment t'as fait pour tenir bon? Il m'a dit, c'est par rapport à ce que tu m'as raconté, Mourad, ça m'a fait réfléchir. Et donc, quand j'entends des récits comme ça, ça me donne le sentiment que c'est pas totalement inutile de leur parler. Il n'y a pas de solution miracle, en fait. C'est un travail sur le long terme. Ça fait 30 ans qu'il y a des jeunes qui partent. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut se poser la question, comment on en est arrivé là? Et pas se reposer sur les lauriers en disant, finalement, en France, on n'est pas si mal. Il ne suffit pas d'avoir l'école gratuite ou d'avoir une carte de sécurité sociale. Daesh leur a proposé quelque chose de meilleur finalement. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont eu. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire, ces jeunes qui partent faire le djihad finalement? Ils essaient de nous dire finalement, moi j'ai plus rien à perdre.
Difficile de trouver une alternative, mais difficile aussi de cibler les profils à risque. Au Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, le CPDSI, 60% des jeunes reçus sont issus de familles non musulmanes, Alice Milo.
Oui, mais il faut préciser que comme ce sont des jeunes signalés par leur famille, c'est donc un chiffre qui n'est pas représentatif de la réalité, car nombreux sont les parents qui craignent de signaler leurs enfants, de peur de les voir stigmatisés ou envoyés en prison. Mais le problème aujourd'hui, surtout, c'est que le profil des candidats au djihad a tendance à évoluer. Écoute, Dounia Bouzard.
Je crois qu'il faut distinguer la génération qui est passée à l'acte, notamment pour le Bataclan, de ceux qui sont en train d'incuber. Si je me réfère aux 700 jeunes qu'on a eu en suivi cette année et aux 235 qu'on a récupérés à la frontière et qu'on a suivis en désembrigadement, le terreau social est complètement différent. J'ai des enfants d'avocats, de médecins, qui étaient premiers de la classe, épanouis, champions de sport. J'ai des enfants de classe moyenne, des enfants de professeurs avec des parents attentifs. J'ai aussi des parents chômeurs ou des parents de classe populaire avec des trajectoires diverses. Mais si vous voulez, j'ai pas de lien de cause à effet entre le terreau social et l'autorité du discours radical. C'est plus complexe que ça et c'est pour ça que je parle de mutation du discours djihadiste. L'embrigadement classique de ceux qui sont passés à l'acte touchait plutôt des jeunes fragiles au niveau social et familial, souvent issus de l'immigration, en manque d'espoir social. Depuis 2014, et c'est pour ça que le CPDSI est né, on s'est aperçu que les rabatteurs peaufinaient leur discours. Le rabatteur français fait parler le jeune pour comprendre son profil psychologique. Et il va lui proposer un mythe qui correspond à sa personnalité. En gros, si le jeune met sur son Facebook ou sur son réseau social
le fait qu'il a fait un camp au Burkina Faso l'année dernière, le rabatteur va l'approcher en lui faisant miroiter l'illusion d'aller sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. Si le jeune était très proche de son père et que le jeune est en pleine gamberge sur la vie après la mort, ils vont l'approcher sur la garantie non seulement du paradis si on meurt au Cham. Si le jeune a besoin de se venger parce qu'il a été discriminé, ils vont lui proposer un projet et une place de vengeance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont finalement s'adapter au malaise du jeune, car ils s'attaquent principalement à des jeunes. Il faut savoir que les filles qui ont essayé de partir cette année, ça a commencé à l'âge de 12 ans, et les garçons 14. Ils communiquent tout le temps par Internet pour notamment inscrire le jeune dans une grille de lecture paranoïaque du monde qui va le pousser à rompre avec tous les adultes qui contribuaient à sa socialisation. Les profs seraient donc des gens achetés par des sociétés de pouvoir pour les endormir. On les coupe des éducateurs aussi, des activités de loisirs pour avoir plus d'emprise sur eux. On les coupe aussi de leurs anciens amis qui seraient des gens endormis, incapables d'avoir du discernement et de percevoir le complot contre le vrai islam. Et la rupture familiale arrive comme quatrième indicateur. La génération qui est en train d'incuber, qui n'est pas passée à l'acte, elle est plus diversifiée que les premières figures. Donc oui, moi j'ai du mal à faire un profil, je le dis clairement. Et je ne voudrais pas qu'on découvre ce que je suis en train de pointer avec encore 10 ans de retard et qu'on tombe des nues quand cette génération-là va passer à l'acte.
Dounia Bouzard, directrice du Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, le CPDSI, est parfois critiquée car son entreprise privée facture son expertise et ses services auprès de l'État. Quoi qu'on en pense, cela en dit long sur le retard pris par la France dans le domaine de la déradicalisation. Reportage signé Alice Milo, au montage et à la réalisation Romain Dubrac, Mathieu Salabert. Je vous dis à demain, 7 milliards de voisins.